Gaston Pavlovski, l'étrange voyage. Vous, monsieur, qui paraissez si bien informé, vous ignorez encore, sans aucun doute, les circonstances véritables de l'étrange aventure qui bouleversa l'an dernier la vie de notre ami James Southrighton et entraîna sa disparition de notre monde pour un temps que ni vous ni moi, monsieur, ne pouvons apprécier en ce moment. Vous savez, n'est-ce pas, comme tout le monde, que James venait chaque soir d'Oring Garden en aéroplane, et que cette concession faite aux mœurs du temps mettait en joie tous les habitués du château du théâtre. Et puis, l'on savait que James était un esprit curieux, épris d'étrangeté, recherchant toujours des aventures singulières, et que ses actions n'étaient jamais celles du vulgaire. Depuis 10 ans déjà qu'il perfectionnait à transformer les simples aéroplanes dont nous nous servons encore, vous et moi, tous les jours, on pensait que les effets qui en seraient obtenir ne seraient point ceux du commun. Aussi bien, personne ne s'était-il étonné l'autre soir, autrement de jour où l'on vit arriver de Paris avec sa nouvelle machine, 4 heures au moins avant l'ouverture des portes du théâtre. James, vous vous en souvenez, manifesta ce soir-là quelque impatience. Personne n'était encore là. Les décors n'étaient même pas plantés. 4 heures d'attente, c'était pour James une chose parfaitement impossible. Et il résolut, comme vous le savez, d'aller faire un petit tour pour essayer sa nouvelle machine qu'il venait d'inventer. C'était, on vous l'a raconté sans doute, un engin formidable de 92 puissances, s'alimentant directement par la combustion de l'air et dont la vitesse pouvait s'accroître d'une façon indéfinie grâce aux tuyaux de pipe rayés en turbine qui s'enfonçaient en spirale dans l'air et apportaient au moteur une provision toujours croissante d'ozone liquéfié. Du Yorick Theatre, James, sans idée préconçue, régla son volant boussole de direction vers l'ouest et bondit en avant avec une telle rapidité qu'il disparut aux yeux de tous à la façon des bulles de savon qui s'élèvent et s'évanouissent dans un rayon de soleil. Tranquillement installé dans la cabine centrale, James jeta les yeux derrière lui et à son grand regret, il ne vit rien. Aspiré par la vitesse des cheminées, des petits cottages et des bergeries entières, arraché de terre, montait en l'air dans le sillage de l'astrotombe et obstruait sa vue. James s'amusa un instant en contemplant une brebis bêlante qui flottait en allaitant encore ses petits. Puis il mit ses turbines complètement en prise et regarda vers le sol. À son grand étonnement, il constata que les côtes d'Angleterre disparaissaient déjà et qu'il filait sur l'océan. Heureusement, il consulta son chronographe. 3 minutes s'étaient écoulées depuis son départ de Londres. L'heure des îles de Scilly, retardant une demi-minute sur celle de Londres, c'était donc 25 minutes que James venait déjà de rattraper sur le temps. Parti à 4 heures de Londres, James prenait le large en 3h35. Oh, ce premier succès le grisa. Il mit son levier sur la 64e vitesse, en prise directe, assujettit le pare-étincelle contre l'inflammation de l'air, et l'aéroplane partit sur l'océan comme un bolide. 15 minutes après, James passait en comète sur New York, exactement à 11h18 du matin, l'heure de New York retardant de 5 heures sur celle de Greenwich. Dès lors, ce fut une course folle à la poursuite du temps passé. Bien avant San Francisco, James rattrapa la nuit précédente, puis le coucher de soleil de la veille, puis la journée précédente, puis des jours entiers, des jours passés. Il revit l'Angleterre et le public qui se pressait la veille aux portes du Yorick Theatre, dérapant sur les nuages, fixant toujours avec pleine avance une zone et les courants magnétiques dans le dos. Et parfois, il vérifiait la direction de son vol en boussole, prenait une pilule de bœuf liquéfié et quelques grammes de somnoline de plomb. Puis, régénéré, il regardait à nouveau ce qui se passait sur la Terre. À mesure qu'il rattrapait des mois et des années, James s'intéressait toujours davantage aux êtres et aux choses. Et ce ne lui quittait pas le récepteur du guide Europe téléfo-amplificateur. Avec indignation, il se revit lui-même à l'âge de 6 ans, volant du gin à sa pauvre grand-mère, et, furieux, arrêta l'allumage. Il ne stoppa que 2 jours de terre plus loin, s'interpella rudement l'avant-veille du forfait. L'enfant lui répondit en riant et le traita de vieux fou. James comprit alors combien les jeunes gens ont tort de ne pas croire aux prédictions des vieillards, et repartit tristement. Au surplus, il ne comprenait pas bien comment il se faisait qu'il se souvenât de s'être lui-même rencontré dans l'âge de 6 ans, et cette repoussante question, angoissante question, lui valut un grippage spécial de la deuxième circonvolution frontale. Bientôt, James se sentit dépaysé. L'exécution de Charles Ier le laissa froid. Et c'est à peine s'il découvrit l'Amérique Et s'émut quelque peu, lui qui venait enfin, découvrir des fois, tant de fois. À un moment, il s'arrêta pour s'entretenir avec des généraux romains. Il voulut donner, étonner ses auditeurs, leur prédire l'avenir. Il bluffa et se coupa lui-même. On le prit pour un simple augure, et on lui donna quelques drachmes en échange d'un Napoléon couronné que l'on accepta sans difficulté. Toujours plus anxieux, James remonta furieusement dans l'histoire. Il passa comme un astre brillant au-dessus de la Grèce antique et jeta le trouble dans les observations astronomiques de la Chaldée. Bientôt, les hommes disparurent, les volcans s'allumèrent et le sol se convulsa. James franchissait l'histoire et remontait aux origines du monde. Or, un jour qu'il volait au-dessus d'une forêt vierge, écoutant avec stupeur les bêtes parler, comme elles en avaient encore le droit de le faire avant la création de l'homme, James ressentit tout à coup une vive douleur à l'extrémité de la colonne vertébrale, cependant que l'aéroplane s'arrêtait brusquement, comme enrayé par un objet insolite. James, étonné, chercha à se rendre compte de ce qui se passait. Et en tâtant l'endroit meurtri, quelle ne fut pas sa peur et sa stupeur en constatant derrière son dos la présence d'un commencement de queue. James Southbrighton remontait au singe. My God, dit-il. Oh, je crois fort qu'il serait temps de m'arrêter. Sans cela, je serai bientôt dans la peau d'un zoophyte. Péniblement alors, James reprit sa route vers l'est, mais en première vitesse cette fois. Le moteur s'étant sensiblement avarié, et ce fut à peine s'il put rentrer sans panne dans l'histoire. Péniblement alors, James reprit sa route vers l'est, mais en première vitesse cette fois. Le moteur étant sensiblement avarié, et ce fut à peine s'il put rentrer sans panne dans l'histoire. Fort à propos, il revint pour la création de l'homme, et Dieu l'employa, ouvrier anonyme, à éviter l'inceste dans la première famille humaine. D'aucuns disent, mon cher monsieur, qu'il périt là, vraisemblablement dans la préhistoire, sous le pseudonyme de Prométhée, d'autres qu'il regagna misérablement son siècle à pied sous le nom du Juif errant, d'autres enfin qu'il épousa la fille de Seth dont il eut Enoch, qui vécut 75 ans et engendra Lot qui vécut 82 ans, qui engendra Noé, qui vécut 500 ans, et engendra Joseph Sherlock, le premier bateau digne de ce nom. Mais l'avenir seul pourra nous faire reconnaître d'une façon certaine ce qu'il y a de vrai dans ce passé trop lointain, Gaston de Pavlovski. 1908.